Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles en direct sur Sud Radio. Comme chaque semaine, vous le savez, vous pouvez également nous regarder en Facebook Live depuis la page officielle de Sud Radio ou encore bien sûr en replay sur YouTube. Une actualité particulièrement dense, vous le devinez, cette semaine concernant la gestion de la crise sanitaire dans le pays. Nous serons dans un instant en duplex avec notre invité depuis Marseille pour en parler. C'est donc parti pour un nouvel épisode des Incorrectibles. Nous sommes ensemble pour une heure.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Alors pour cette nouvelle émission, notre invité est un professeur de biochimie spécialisé en biologie structurale et en biotechnologie. Il enseigne à l'Institut des maladies infectieuses et à l'Université d'Aix-Marseille. Proche collaborateur de Didier Raoult, il est le responsable de la valorisation de la recherche à l'IHU Méditerranée. Vivement opposé aux récentes décisions sanitaires prises par Olivier Véran dans sa ville, il est à nos côtés pour nous apporter son éclairage personnel sur cette crise qui n'en finit plus de faire polémique. Professeur Éric Chabrière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de consacrer une heure de votre temps en direct à Sud Radio, car on vous sait très occupé et très sollicité. Alors on va bien évidemment revenir en détail sur la gestion de cette crise sanitaire, que ce soit dans le Sud, à Marseille, votre ville, mais aussi plus généralement à l'échelle nationale. Cela alors que de possibles nouvelles restrictions pourraient être annoncées par le gouvernement dans les heures qui viennent, notamment à Paris. Mais avant cela, professeur, j'aimerais vous demander votre avis sur cet imbroglio autour de Donald Trump, dont officiellement l'état de santé serait bon, mais dont le propre chef de cabinet aurait laissé entendre que la situation est plus sérieuse qu'on le pense. Il y a encore une nouvelle vidéo de lui ces dernières heures. Je rappelle pour les auditeurs que Donald Trump a été testé positif au coronavirus avec l'apparition de symptômes de la Covid-19, suite à quoi il a été officiellement, par précaution, hospitalisé. Les médecins lui auraient administré un cocktail expérimental d'anticorps de synthèse ainsi que du remdesivir. Alors, quelle est votre réaction sur ce qui se passe outre-Atlantique? Et puis, vous nous direz au passage, s'il vous plaît, quels sont ces anticorps de synthèse?
Alors, on risque de vous décevoir, je n'ai pas trop d'avis, on va dire, sur Donald Trump. On va dire, nous, on n'a aucun contact avec lui. En plus, étant en période électorale et étant une personne qui aime faire le show, on ne sait pas trop, on va dire, quelle est la part de réalité, de faux, de communication. Donc, je m'abstiendrai, bien sûr, de faire le moindre commentaire sur l'état de santé de Donald Trump.
Enfin, oui.
Oui, juste, on va dire, voilà, grosso modo, j'ai regardé rapidement, on va dire, ce qu'il a pris comme médicament. Donc, on parlait des anticorps. Ce sont des anticorps qui doivent fonctionner dans la phase précoce de la maladie virale, tout simplement pour neutraliser les virus dans le corps. Mais là, je ne sais pas, il est en période électorale, il faut toujours être prudent là-dessus.
Non, je vous dis ça parce qu'un de vos confrères, Willy Rosenbaum, dont le professeur spécialisé justement aussi dans les maladies infectieuses, qui a dit qu'un traitement à ce stade de développement n'est en général administré que lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, car le bénéfice-risque n'est pas évalué. Vous partagez son point de vue ?
Je suis d'accord, mais c'est pour ça que derrière, je préfère ne pas commenter, parce que, voilà, une période électorale avec Donald Trump, ouais. Je pense que les gens qui font des commentaires n'ont pas les informations et risquent de dire... En tous les cas, oui, j'irais. Il a des médicaments qui sont un peu des remèdes de cheval, si c'est juste le début de la maladie. Mais voilà, après, je n'ai aucune information de plus que vous là-dessus.
D'accord. Mais enfin, pourquoi je vous parlais de lui? Là, ça va nous permettre d'en arriver à notre sujet, puisque Trump était quand même un ardent défenseur, donc il y a encore quelques temps, du traitement à l'hydroxychloroquine. Et pourtant, la molécule ne lui a pas été administrée. Alors, comment vous l'expliquez? Pensez pas que cela va alimenter de nouveau les soupçons d'inefficacité de cette molécule dont vous êtes évidemment un ardent défenseur?
Ah, c'est sûr que Donald Trump a fait beaucoup parler justement pour l'hydroxychloroquine. Nous, quelque part, il nous a fait du mal puisque on est passé d'un débat médical à un débat politique où aux États-Unis aussi, il y avait, alors si on était chloroquine, on était pro-Trump, si on était anti-chloroquine, on était anti-Trump, quelque chose de ridicule. Il y a eu la même chose au Brésil et ça a plus compliqué finalement la démarche scientifique que aidé. Je ne suis pas sûr que tout le monde a envie d'être soutenu par Trump. Nous, voilà, on n'a aucun avis sur Trump, c'est le problème des États-Unis, je dirais, ça ne nous concerne pas.
Très bien, professeur, le message est passé. Alors, on va revenir en France à présent, avant de parler des possibles nouvelles annonces du gouvernement. Alors, elles sont attendues officiellement demain, mais il se pourrait même qu'il y en ait qui soient annoncées dans les heures prochaines. Donc, s'agissant bien sûr de Paris et de la politique donc sanitaire du gouvernement. Mais on aimerait vous entendre, bien sûr, sur évidemment la personne auprès de laquelle vous travaillez le plus quotidiennement, puisqu'il s'agit du professeur Raoult et puis de ce traitement à l'hydroxychloroquine. Alors, pour en venir au professeur Raoult, dont vous êtes, je le rappelle, donc un proche collaborateur et soutien, et au traitement à l'hydroxychloroquine, vous avez retweeté le sondage Harris pour LCI, c'était le 16 septembre dernier, qui faisait apparaître que de manière générale, quand il s'agit de prendre la parole sur l'épidémie de coronavirus, les Français ont désormais légèrement plus tendance à faire confiance à Didier Raoult qu'au conseil scientifique. Alors vous commentez un score à faire rêver tout homme politique, hein, 52% versus 45%. Les Français savent faire la part des choses. Pourquoi, selon vous, une telle cabale contre le professeur Raoult? Qui gêne-t-il à ce point, professeur Chabrière?
Alors c'est une, on va dire, une question qui est avec des réponses qui sont complexes. Il y a plusieurs éléments de réponse. Bien sûr, en premier arrive la personnalité de Didier. Je pense que les Français ont découvert. C'est une personne, on va dire, avec un très fort caractère, qui peut être très désagréable, mais qui a aussi le côté qui est reconnu par tout le monde, c'est quelqu'un de brillant. Il est brillant, gros travailleur, avec beaucoup de vision. Et c'est pour cela que derrière Didier Raoult, il y a tout l'IHU qui le soutient. Là aussi, c'est une personne qui est populaire, puisque au final, quand on voit, sa priorité, ça a été les patients et les prendre en charge. Et c'est ce qui a été fait depuis le mois de mars, avec un effort énorme, une constance là-dessus. Et les gens, vous pouvez essayer de raconter tout et n'importe quoi, ils ne se trompent pas. Quand on prend soin d'eux, quand il y a des résultats, ils s'en rendent compte. On pourra, je pense, lors de l'interview, discuter un peu de toutes les fausses rumeurs et hypothèses qui sont là. Après, derrière, on a bien vu aussi qu'il y avait des gens qui auraient préféré imposer certains traitements. On a beaucoup communiqué dessus. Les personnes les plus défavorables, on ne les voit plus d'ailleurs. Ils ont très bien compris qu'il valait mieux se cacher.
Vous pensez ensuite, à quelqu'un en particulier?
Je ne vais pas donner de nom, on va dire. Ils se cachent, ils se reconnaîtront. Didier Raoult en a parlé plusieurs fois. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Là aussi, il y a, on va dire, tout un système. Après, avec certaines personnes, ça s'est mal engagé. Donc, il y a eu après des blocages personnels. Mais on voit que c'est assez compliqué. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est quand même, dans l'histoire de la médecine et de la science, c'est la première fois qu'il y a toute une succession d'articles bidonnés. Là aussi, il y a quand même eu le Lancet.
On va y venir, oui.
On a retrouvé que derrière, on avait tout de suite communiqué en disant que c'était un article faux, bidonné. Il y a eu une succession de personnes qui sont allées vanter les mérites. Or que quelques semaines après, cet article a été clairement rétracté. C'était des données produites par une société dont la représentante commerciale était une stripteaseuse de Las Vegas. Donc on va dire que c'est un peu grotesque. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi des articles sur des vétérans aux États-Unis dont les personnes avait des très forts liens avec la société Gilead. Mais même en France, je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a eu des études françaises aussi sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Les personnes dessus, à un moment donné, on a repris les données et on se rend compte que le groupe traité hydroxychloroquine azithromycine, il y avait zéro mort. On a demandé au méthodologiste de faire la correction et de le rajouter dans l'article. Il nous a donné une réponse, hein, c'est officiel. Il a dit, ce n'était pas l'objet de l'étude d'étudier hydroxychloroquine azithromycine, donc je ne conclue pas. Pour information, cette personne était aussi le méthodologiste payé par le groupe Servier pour le Mediator, qui avait omis de déclarer ce lien quand même très fort dans cette affaire à l'IGAS. Ça aussi, c'est officiel. Donc, quand on voit le nombre de problèmes qu'il y a, cet acharnement, il faudra faire les enquêtes. Parce que même un article comme le Lancet, pour le bidonner, ce n'est pas la portée du premier venu, ce n'est pas un canular, il y a vraiment une action, et je pense que ça demandera une enquête pour savoir qui sont les personnes derrière.
Vous êtes en direct sur Sud Radio dans les Incorrectibles. Ce dimanche, nous avons comme invité, nous sommes ravis de le recevoir, le professeur Éric Chabrière qui travaille aux côtés de Didier Raoult. On revient dans un petit instant, à tout de suite.
Sud Radio les Incorrectibles, Éric Morillot.
De retour dans les incorrectibles ce dimanche, nous sommes en direct avec le professeur Éric Chabrière qui travaille aux côtés du professeur Didier Raoult à l'IHU de Marseille. Alors bien sûr, vous l'avez compris, on parle beaucoup de cette crise sanitaire à quelques heures de possibles nouvelles annonces de restrictions, notamment concernant la ville de Paris. Mais j'aimerais revenir donc bien sûr à ce sujet dont on parlait juste avant de s'interrompre, s'agissant bien sûr de l'hydroxychloroquine dont vous défendez bien sûr l'intérêt ainsi que le professeur Raoult. Dans un tweet, professeur Chabrière, vous écrivez qu'Olivier Véran et d'autres, on l'imagine, confond la chloroquine, qui a été très largement utilisée comme antipaludéen, et l'hydroxychloroquine, qui a une plus grande fenêtre thérapeutique. Alors, sans rentrer trop dans le détail, quelles sont les différences précises pour que les auditeurs comprennent bien ?
La chloroquine est un médicament qui a été très largement utilisé, et un peu moins maintenant à cause de certains phénomènes de résistance contre le paludisme. C'est un dérivé de la quinine. Et l'hydroxychloroquine est une molécule qui a été développée, qui est moins toxique et qui est indiquée pour le lupus et l'arthrite rhumatoïde. Et c'est cette molécule qu'on utilise à l'IHU. Donc, quand il y a eu l'audition à l'Assemblée et une question posée à Olivier Véran là-dessus, il dit que l'hydroxychloroquine qu'on utilise est utilisée depuis longtemps comme antipaludique. Ce n'est pas vrai. Donc, je pense qu'il confond avec la chloroquine qui est l'antipaludéen. Il y a une erreur là-dessus.
C'est quand même assez ennuyeux ce que vous nous dites là. Le ministre de la Santé, qui est lui-même médecin, on le rappelle, confonde les deux.
Je dirais, c'est pas la première contradiction qu'on pourra relever.
Oui, on va en parler d'autres justement. Alors, si l'hydroxychloroquine est efficace, expliquez-nous, professeur, pourquoi, quand même, faut bien le reconnaître, on en parlait déjà il y a un instant, pourquoi l'immense majorité des médecins, en tout cas, s'accordent aujourd'hui à la contester ?
Alors, un, c'est peut-être un phénomène, on va dire, français, je pense.
Parisien ?
Pas forcément que parisien. Comme je dis, les choses se sont mal engagées au début. Peut-être aussi... Là aussi, les gens, ils entendent toujours qu'on a toujours dit que c'était un traitement miraculeux. Personne n'a dit que l'hydroxychloroquine était un traitement miraculeux. Ça apporte quelque chose de supplémentaire. On va dire, c'est évident. On l'a démontré auprès de nombreuses études, dont la dernière avec 3700 patients.
À condition que ce soit pris au début, hein, c'est ça.
Plutôt au début, exactement. Après, le rôle de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Là aussi, l'azithromycine est un antibiotique, mais qui a aussi une activité virale. Les actions sont complexes, puisqu'il y a un rôle antiviral. Il y a un rôle aussi de modulation du système immunitaire, comme on sait que la deuxième partie du Covid est une grave inflammation. Donc, on voit que les effets sont complexes et multiples. Mais en tous les cas, sur 3700 personnes qui ont été traitées à l'IHU, nous n'avons eu que 18 décès. Donc, quand un article dit que c'est toxique à 20%, vous imaginez 3700 personnes, ou au final, on va dire, c'est même presque 7000 personnes à l'IHU qui ont pris l'hydroxychloroquine. Si c'était 20%, comptez le nombre de morts, ça ferait plus de 1000 morts. Donc, quand un article commence par dire c'est toxique, faut même pas aller plus loin, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge.
Il y a encore des études à ce sujet en France ou pas, car toutes semblent venir de l'étranger, hein, vous le rappeliez tout à l'heure.
Alors là aussi, il y a un grand nombre d'études, il y a même une grande majorité d'études qui sont plutôt favorables à l'hydroxychloroquine. Ça, les gens l'ignorent et ce n'est pas relayé. Donc il faut arrêter de croire que ce traitement est le fruit et simplement le fantasme de l'IHU, c'est largement utilisé à travers le monde. Là aussi, je vais redire, c'est que l'homologue de Olivier Véran au Maroc a clairement dit c'est pas recommandé par l'OMS. Vous voyez, les gens jouent, c'est pas recommandé, mais ils l'utilisent quand même largement. Donc après, on nous dit, ah ben non, c'est pas recommandé, donc c'est pas utilisé. Non, l'hydroxychloroquine est largement. Le ministre de la Santé du Maroc dit que ce n'est pas recommandé, mais c'est utilisé avec succès. Idem pour l'Algérie. Donc je vois pas pourquoi les homologues d'Olivier Véran diraient plus de bêtises que le ministre au Sénégal, mais même à travers le monde. Et même les États-Unis où ça fait un débat, ça dépend des États, et les gens, certaines fois, peuvent l'utiliser. Même si c'est pas recommandé, c'est quand même utilisé. Au Brésil, c'est pareil, il y a une grosse polémique. En fait, c'est un traitement qui est largement utilisé et qui montre des effets. Il y a des centaines d'articles là-dessus.
En tout cas, vous, votre bilan à l'IHU, vous nous le redites aujourd'hui, vous le confirmez, il est plus que positif.
Mais nous, comme je vous dis, sur une étude de 3700 personnes, des patients ont pris l'hydroxychloroquine, d'autres n'ont pas pris. On a vu une différence. pareil, on va dire, avec le traitement en EHPAD, sur lequel je pense on reviendra derrière, on voit encore une différence et aucune mortalité. Donc déjà, on oublie le débat sur la mortalité et on regarde les effets. Alors les effets, c'est par exemple en EHPAD, on gagne 5% de létalité. Est-ce que c'est miraculeux? Non. Mais est-ce qu'il y a un effet? Oui. La vérité n'est pas forcément blanc ou noir, c'est un peu plus gradué. Mais par contre, moi, ce qui me dérange dans ce débat, c'est que finalement, ça occulte le débat sur le traitement, mais on oublie que ce qui est le plus important aussi dans une épidémie, c'est la prise en charge des patients. Et je pense que l'IHU a bien montré dès le début, et les chiffres parlent d'elles-mêmes. Regardez, sur les personnes qui ont pris le traitement, 18 morts à l'IHU. 18 morts, c'est officiel. On nous dit après que derrière, il n'y a pas eu d'épidémie à Marseille, pour, on va dire, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a des bons résultats. Là aussi, ce n'est pas vrai, ce sont des mensonges. On a eu les séroprévalences de l'EFS, des différentes régions, et on sait que dans l'Est, il y a eu 10% de personnes qui ont été infectées par la Covid. À Paris, c'est 9 et Marseille, c'est 8. Donc, on voit que les taux sont à peu près les mêmes et les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc, quand on me dit derrière pourquoi est-ce qu'on a eu des bons bilans à Marseille, c'est la prise en charge et je dirais que c'est même l'effet majoritaire et aussi le traitement qui donne encore un petit plus. Mais là encore, je le dis, c'est les gens, quand ils disent qu'on promeut un traitement miraculeux, c'est une façon de discréditer car vous ne trouverez jamais une phrase où on a dit que c'était miraculeux. Ça apporte un plus.
Donc vous dénoncez en tout cas les propos, par exemple, du docteur Jérôme Marty qui dénonce des petits arrangements avec la vérité, hein.
Mais qui viennent nous donner, on va dire, les chiffres, s'ils pensent. Vous savez, tous les chiffres sont donnés à l'ARS. Nous, dans tout Marseille, vous voyez, avec l'hydroxychloroquine et sans l'hydroxychloroquine, sur 7000 personnes infectées, entre de janvier jusqu'au mois de juin, 7000 personnes positives, 162 décès. C'est les chiffres, on va dire, de la PHM. 162 décès.
Alors,
professeur, quand on regarde les courbes de la PHM, les données de la PHM en mortalité, on est même une année où on meurt moins à l'hôpital à la PHM que les années précédentes, et je pense aussi dans beaucoup de régions en France, malgré que l'épidémie soit passée. Donc, c'était plutôt une année favorable en termes de décès.
Alors justement, vous parliez de Marseille, on va y venir, on va bien sûr parler aussi de la politique sanitaire plus précisément donc mise en place par Olivier Véran. Depuis la rentrée et à ce jour en tout cas, Marseille et Aix-en-Provence semblent être en tout cas les deux premières villes, hein, peut-être que Paris va les rejoindre dans peu de temps, dans le viseur du gouvernement, en étant donc les deux seules villes de France placées en zone d'alerte maximale, où le gouvernement a décidé le 23 septembre une fermeture complète durant 15 jours. Pourtant de votre côté, Éric Chabrière, vous annoncez une situation donc maîtrisée, des chiffres, vous venez de le rappeler, qui sont loin d'être aussi alarmants que ceux présentés par le gouvernement. Vous avez retweeté le discours de Martine Vonner, qui est médecin d'ailleurs, on le rappelle, et député du Bas-Rhin, qui a été prononcé vendredi à l'Assemblée nationale et qui soulignait que les hôpitaux à Marseille n'ont jamais été saturés car il y a toujours eu des lits disponibles dans les services de réanimation et de soins intensifs. Alors pourquoi, maintenant après le professeur Raoult, pourquoi y aurait-il, peut-être selon vous, un tel acharnement sur Marseille et Aix ?
Alors déjà, je prends un peu de recul et réexpliquer un peu la situation épidémique qu'il y a eu à Marseille. En mai-juin, nous n'avions quasiment plus de cas positifs, 0 ou 2 cas par jour. Avec les vacances, le tourisme, Marseille est une grande ville touristique, une ville de passage, il y avait d'autres régions qui avaient des taux d'incidence plus importants. Donc le virus s'est remis à circuler à Marseille. Là aussi, je trouve ça terrible de stigmatiser les Marseillais, puisque ce ne sont pas les Marseillais, on va dire, qui sont forcément revenus avec le virus. Il n'y a pas que les Marseillais qui ont dansé sur les toits en discothèque. Il n'y a pas que les Marseillais qui faisaient la fête sur les bateaux. Donc forcément, il y a eu des personnes qui étaient positives, infectées, qui se sont mélangées. Donc l'épidémie a repris. Là aussi, à Marseille, on l'a tout de suite vu, puisqu'on a toujours dépisté massivement dès le début. Donc on a bien vu qu'on avait une reprise de cas positifs. Après, par contre, il y a une grande différence, dont je reviendrai, je pense, après là-dessus, sur la différence et les changements du virus. Mais en tous les cas, le nombre de morts qui sont depuis le mois de juin, c'est 50 morts. Donc, ça fait à peu près un décès par jour depuis le mois d'août. Nous, on a des lits de disponibles à l'IHU. Mais si on revient même au niveau épidémique, suite à cette montée, les Marseillais ont pris les dispositions. Le R0, qui est l'indice de duplication du virus, c'est-à-dire qu'un indice de 1, ça veut dire qu'une personne contamine une personne, un indice de 2, une personne contamine deux personnes, et inférieur à 1, c'est qu'il n'y a plus d'épidémie, c'est la fin. Nous, à Marseille, on était à 0,89, un des plus beaux taux de France. Et d'ailleurs, si on regarde même les taux d'incidence, où je pense qu'on peut rediscuter aussi de cette notion...
Mais alors comment, excusez-moi de vous interrompre, pourquoi selon vous, Olivier Véran, tenterait de discréditer Marseille, l'IHU Méditerranée, pourquoi?
Ça, il faudra lui demander. En tous les cas, ce que je sais, c'est que derrière Marseille, ça fait bien longtemps qu'elle ne respecte plus les critères pour être écarlate, et Marseille est toujours bloquée. D'autres villes sont en écarlate, ont les critères pour être écarlate, ne sont pas bloquées. Je pense qu'il faut lui poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Moi, je ne suis pas dans la tête d'Olivier Véran. Je pense aussi que quand Emmanuel Macron est venu à l'IHU, il n'était pas accompagné de son ministre de la Santé. Je ne sais pas comment l'interpréter. Quand il est revenu au mois d'août menacer Marseille, il n'est pas venu à l'IHU. Il a visité un centre de dépistage dont c'est l'IHU qui fait les tests. Et quand il est revenu expliquer ses mesures à la Timone, il était à côté de l'IHU. On ne l'a pas vu arriver.
Professeur Éric Chabrière, vous êtes en direct avec nous sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. Nous sommes ensemble encore pendant une petite demi-heure. Ne bougez pas, on revient dans un instant.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles en direct, comme chaque semaine, ce dimanche, avec un invité exceptionnel. Et on l'en remercie puisque nous sommes en duplex de Marseille, de l'IHU de Marseille, plus précisément, avec le professeur Éric Chabrière, qui est donc l'un des collaborateurs du professeur Raoult. Et on parle bien sûr de cette crise sanitaire et d'Olivier Véran en particulier, à quelques heures hein, de possibles nouvelles annonces concernant de nouvelles restrictions, peut-être à Paris et en tout cas aussi concernant à Marseille, puisque En tout cas, on va rappeler, donc là, c'est le président de la région PACA, dont vous avez retweeté le tweet, hein, Renaud Muselier, qui est médecin de profession et qui a adressé une lettre à Olivier Véran dans laquelle il dénonce l'absence de concertation dans les décisions prises, donc de fermer totalement, qui sont donc déjà le cas, fermer les bars et restos d'Aix et de Marseille. Il demande à préparer avec les autorités sanitaires et les représentants du monde économique la réouverture. Il demande donc au ministre de la Santé de lancer immédiatement une revoyure incontestable, selon lui, pour son territoire. C'est aujourd'hui que cette clause de revoyure doit être discutée. Est-ce que vous êtes optimiste, Éric Chabrière ?
Je ne sais pas, on va dire. Les décisions du ministre sont toujours imprévisibles. Mais je vais juste en dire aussi préciser pour le cas des réanimations qui a quand même, on va dire, fait beaucoup parler. Ce n'est pas...
Oui, ça, on le rappelle, hein, une députée, donc Martine Vonner, a souligné qu'on mettait en réanimation des patients qui n'ont rien à y faire. Est-ce que vous validez aussi ce...
Absolument, on va dire. On va dire, vous savez, moi je connais mieux ce qui se passe à Marseille que ce qui se passe ailleurs. Je pense que si elle le dit, c'est qu'elle a les informations là-dessus. Je n'en doute point. Mais en tous les cas, à Marseille, déjà, il y a une très grande concertation entre l'IHU et les services de réanimation. C'est pas qu'ils ont été débordés avec le Covid, c'est que en fait, ce que les gens ont voulu dire, c'est que les services de réanimation sont déjà débordés quasiment en temps normal chaque année à cause de la grippe. Il manque de moyens. Donc c'est sûr que les gens qui voient quelques patients Covid, une cinquantaine, on va dire, c'est une cinquantaine de personnes en réanimation à la PHM, même pas. Et après avec les risques des virus du froid, de l'hiver qui peuvent arriver. Ça risque d'être tendu. Donc, ils ont donné un signal d'alarme en disant, on est déjà à la corde. Si on rajoute ça plus ça, ça va poser des problèmes. Mais ce n'était pas parce que derrière, il y avait une hécatombe à Marseille. Comme je le dis, depuis le mois de juin, c'est 50 décès.
Alors, professeur Chabrière, en tout cas, il y a Samia Ghali, qui est la deuxième adjointe à la mairie de Marseille, pour qui l'État, alors là, elle y va donc assez fort, a, je cite, « abandonné l'hôpital public et veut camoufler la situation ». Et la ville de Marseille, notamment, paierait aujourd'hui, selon elle, cet abandon via des mesures abusives décidées par le gouvernement. Vous-même, là encore, vous êtes très actif hein, sur Twitter, vous aviez tweeté le 1er octobre, le problème n'est pas le Covid, le problème c'est le manque de moyens des hôpitaux. Est-ce que vous pensez que le gouvernement exagère les risques? Est-ce qu'il joue, alors voilà un autre sujet dont on va parler, sur la peur des Français pour masquer ses propres manquements, selon vous?
Alors après, qu'il manque des moyens, ça je pense que c'est criant.
Contre la première crise et la deuxième vague, enfin en tout cas comme on le souligne, peut-être pas tous, mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu des choses de fait? Est-ce qu'il y a eu plus de lits? Vous contestez ce jugement?
Je ne suis pas expert du domaine, mais je n'ai pas entendu qu'il y avait eu des moyens. Au contraire, il y a peut-être beaucoup moins de moyens, puisque au mois de mars, on avait déprogrammé des opérations. alors qu'actuellement, elles ne sont pas déprogrammées. Donc, la partie qui reste pour le Covid est minime et les gens ont peur de ne pas pouvoir tout gérer en même temps. Donc, si à un moment donné, on veut avoir une politique sanitaire avec le minimum de décès, il faut se donner les moyens. J'allais dire, c'est le problème est là. Après, pour le côté anxiogène, là-dessus, je peux vous répondre. En mars, Jérôme Salomon, le DGS,
faisait... Ah, on ne le voit plus, lui. Hein.
Oui, il a disparu, on va dire.
Nous, on le surnommait le croque-mort.
C'est ce que j'ai vu. Le croque-mort. Tous les soirs, on avait un décompte très anxiogène du nombre d'hospitalisations, de réanimations, de décès. Ça faisait peur.
Enfin, il va peut-être revenir demain, hein, paraît-il.
On va voir. Ensuite, on a changé un peu le décompte. On a mis cette fois-ci, puisqu'on ne dépistait pas au mois de mars, en dehors de Marseille. Ensuite, ça a été le nombre de cas. Je pense qu'il faudra discuter aussi de ces fameux tests. Et là aussi, ce qui m'a à un moment donné étonné sur le site du ministère, c'est que le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations et le nombre de réanimations ont été mis à 7 jours. Donc, vous voyez que si vous multipliez par 7, grosso modo, les chiffres, vous êtes anxiogène. Et là aussi, on est encore dans un climat anxiogène. Depuis le déconfinement, toutes les semaines, il y a un modélisateur qui arrive et qui dit « Attention, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde ». Mais toujours à 15 jours à la fin, ils finiront par avoir raison. Hein. C'est juste une question de temps qu'il y ait une autre épidémie qui y arrive. Et les Français, voilà ce qu'ils ont tous les jours, de l'anxiété et ils ont de la peur.
Et dans les EHPAD notamment, puisque vous en parliez il y a un instant, Olivier Véran a donc, on le rappelle, relevé une tendance à l'amélioration en effet sur le taux d'incidence de manière générale. C'est donc le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants, vous me reprenez si je me trompe. Mais il a une nouvelle fois pointé la circulation active du virus chez les plus âgés et notamment donc dans les EHPAD. Alors quel est votre avis là-dessus, puisqu'on parlait de la peur, de l'anxiété, évidemment, de ces familles qui peuvent pas aller voir leurs proches. La situation est en effet dramatique de ce côté-là. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Il y a deux réponses, c'est pareil. C'est que pour les EHPAD, moi, on va expliquer ce qu'on a fait à Marseille. C'est dès le mois d'avril.
22% des EHPAD observèrent au moins un cas Covid dans les Bouches-du-Rhône. Hein, voilà.
Nous, dès le mois d'avril, comme l'IHU, on pouvait dépister, mais on ne pouvait pas se déplacer. On s'est appuyé avec le bataillon des marins-pompiers pour aller dépister les EHPAD. Et ça a eu une mesure importante, puisqu'on a fait 1600 patients, on a trouvé des cas, et les directeurs et le personnel de santé des EHPAD ne pouvaient pas savoir qui était infecté ou pas, donc ils ont pu prendre, avec les bonnes informations, la bonne gestion pour isoler les personnes qui étaient positives et éviter que ça se répande. Donc là, on voit encore que finalement, la prévention, la prise en charge est importante. Bien sûr, après, les personnes positives, on les a traitées, pour celles qui le désiraient, avec notre traitement, mais au final, sur toutes les EHPAD marseillaise que nous avons testé, 24 établissements là sur les chiffres que j'ai, 47 décès seulement. Donc on voit qu'on a évité une hécatombe. Alors c'est pas le traitement à l'hydroxychloroquine, même si on a vu une amélioration, c'est surtout le dépistage pour pouvoir gérer correctement les EHPAD. Après, pour l'épidémie, nous, depuis le début, on dit, alors, je sais pas, vous savez, les cycles de PCR multiplient le matériel génétique par deux à chaque cycle. Donc, à la fin, plus on fait de cycles, plus on est capable de détecter une petite charge. Nous, on sait qu'au-delà de 35 cycles, ça ne sert à rien parce que la charge virale n'est ni contagieuse, ni responsable de la maladie. Beaucoup de tests actuellement, qui sont rendus d'ailleurs avec beaucoup de retard, ce qui n'a pas de sens médical.
On va y venir.
C'est pas capable de donner un diagnostic après. Mais en plus, sont sensibles et détectent des personnes qui sont ni malades, ni contagieuses. Cela n'a pas de sens médical. Alors après, utiliser ce critère comme aiguille, ça a peut-être du sens pour regarder, pour comparer, mais je pense que c'est un peu hasardeux. C'est-à-dire que c'est un critère qui est arrivé et avec un outil qui n'est pas forcément fiable, puisque trop sensible. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des préconisations pour descendre le nombre de cycles PCR pour le diagnostic, comme on l'a publié, mais très 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 précocement.
Alors justement, vous parliez du dépistage. Hein, dans son discours du 1er octobre, Olivier Véran annonçait que 75% des tests seraient rendus en moins de 48 heures. Est-ce que vous y croyez ?
Moi, je ne vais pas, on va dire, commenter. Nous, à l'IHU, avec nos moyens, depuis le mois de mars, on rend les tests en 24 heures. Et depuis quelques temps, on arrive à les rendre en 20 minutes dans certains cas. Je pense que si, à un moment donné, on est encore 6 mois après à dire, dans les cas urgents, on va peut-être rendre à 48 heures, il faut peut-être se poser la question.
Est-ce qu'il faut prioriser les tests, comme le suggère donc Olivier Véran ? Là-dessus, au moins peut-être un accord ?
Non, ça, c'est de la un cache-misère. Nous, à l'IHU, depuis le début, quelqu'un qui a des symptômes vient, quelqu'un qui pense avoir été en contact vient. Il y a aussi des gens qui doivent voyager, qui doivent avoir des certificats négatifs de moins de 3 jours. Nous, on est ouvert à tout le monde. Et là aussi, on entend qu'il peut y avoir des personnes asymptomatiques qui peuvent contaminer les autres. C'est important quand quelqu'un a été en contact, même s'il est asymptomatique, de pouvoir l'identifier pour qu'il s'isole.
Est-ce que selon vous, on peut croire, d'ailleurs, une petite parenthèse, à la fiabilité de ces nouveaux tests, hein, notamment le test antigénique qui est réalisé à partir de prélèvements dans le nez et qui doit permettre de donner des résultats très rapidement ?
Le test salivaire, on les a testés à l'IHU, ils ne sont pas assez sensibles, nous, on les déconseille.
Et les tests antigéniques, c'est ça, c'est ces nouveaux tests-là, ceux-là, vous êtes plutôt favorable. D'accord, c'est ça. Quant aux masques, alors voilà le sujet, l'un des sujets les plus sensibles du moment, puisqu'en effet, ils sont quasiment obligatoires partout. Hein, donc, est-ce qu'ils servent réellement à quelque chose, professeur Chabrière, dans son discours dont on parlait plus tôt, le médecin et député Martine Vonner affirme qu'ils ne servent strictement à rien. Alors là, on entend un peu tout et son contraire. Quel est votre avis ? Les professeurs Gilbert Deray et Bruno Mégarban, au contraire, dans une tribune récente, ne sembleraient pas aussi à ce que les masques soient même portés à la maison. On assiste à une surenchère, ça devient sérieux ou est-ce que là, on exagère complètement ?
Je pense qu'il y a certaines personnes qui passent plus de temps sur les plateaux de télé à donner des avis alors qu'ils ne sont pas au contact des patients et des malades. Ils vivent du Covid, puisqu'ils sont invités continuellement, donc ils ont envie d'être alarmistes pour qu'on les réinvite à nouveau. Donc, en tous les cas, nous, ce qu'on dit à l'IHU depuis le début...
Vous êtes invité également quand même, hein. On vous donne la parole quand même à l'IHU de Marseille.
On n'est pas du matin au soir sur les plateaux télé. D'ailleurs, je vous signale que pour que je vienne,
c'est vrai,
vous avez
c'est vrai. J'ai beaucoup insisté, c'est vrai.
Mais on a beaucoup de choses à faire.
Donc, vous êtes en parfait désaccord avec... Parce qu'il y a quand même des professeurs... Bon, alors, c'est vrai que Gilbert Deray, je crois qu'il est urologue, hein, il n'est pas infectiologue comme vous, mais vous ne le considérez pas légitime pour s'exprimer sur cette maladie ?
Les données, vous allez voir, on va dire la démonstration va être très simple. Nous, on a toujours dit que les masques FFP2, pour les médecins, c'est normal, un médecin qui va voir une personne malade a des chances de s'infecter, surtout qu'il va être à proximité. Pour les personnes positives, c'est bien de mettre un masque chirurgical pour éviter qu'ils aillent positionner de partout, c'est ce qu'on fait pour la tuberculose. Nous, on a toujours dit ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu des décisions politiques. Le masque n'est pas obligatoire, n'est pas utile. Après, il devient obligatoire. Moi, je vais juste rappeler, on va dire, à la dernière cabriole d'Olivier Véran au Sénat. Ce qui est bien, c'est qu'il faut regarder les déclarations du Sénat parce qu'elles sont faites sous serment. Donc, les gens sont très prudents quand ils parlent et ils évitent de faire des raccourcis qui pourraient se retourner contre eux. On lui pose une question sur la grippe en Australie, qu'effectivement, qu'elle est beaucoup moins importante. Et il dit c'est à cause... des gestes barrières et du masque. Il revient un petit peu du bout des lèvres en disant « quoique le masque n'est pas très efficace pour la grippe ». Donc, on peut se poser des questions. Si c'est pas très efficace pour la grippe, pourquoi ça le serait beaucoup plus pour le Covid ? Peut-être qu'il a des données que nous ignorons. Mais ce qu'on a toujours dit, et vous voyez, je vais mettre de la nuance là-dessus, pour le masque, le masque, c'est une décision politique. C'est que si vous avez un masque, et je crois que Madame Dubosc, la compagne de Véran, l'a un peu aussi dit lors d'une interview, d'une émission avec le professeur Toussaint, il dit que c'est politique pour que les gens prennent de la distanciation sociale. Si vous mettez un masque, c'est sûr que vous allez avoir plus de distance. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas être clair avec les Français plutôt que de les prendre pour des idiots en inventant des histoires de croque-mitaine pour les faire obéir et adhérer en disant « mettez votre masque ». Ce n'est pas la panacée, mais par contre, ça vous permettra de rester éloigné. Moi, personnellement, à titre personnel, qui pense être en bonne santé, je n'aime pas porter un masque en plein milieu de Marseille. Par contre, mes parents, qui sont des personnes fragiles, je leur dis de porter un masque et de pas faire la bise à leurs proches et amis. Vous voyez que le système, il n'est pas blanc ou noir, ça dépend du risque. La semaine prochaine, je vais à Paris. Je vais certainement mettre le masque dans le métro, pas pour l'obligation, mais parce que j'ai pas envie d'être contaminé. C'est un peu plus compliqué.
Éric Chabrière, professeur à l'IHU de Marseille et l'un des collaborateurs donc, du professeur Raoult est notre invité. Encore une petite vingtaine de minutes sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. Restez avec nous, on revient dans un instant.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morisot.
De retour dans les incorrectibles pour la dernière partie de l'émission avec ce dimanche un invité exceptionnel en direct, en duplex de Marseille, puisqu'il s'agit du professeur Éric Chabrière qui travaille à l'IHU Méditerranée aux côtés donc du professeur Didier Raoult. Alors il y a un instant, on parlait évidemment de ce sujet plus que sensible, hein, du masque. J'aimerais vous demander, professeur, aussi une précision. Il aurait été prouvé que ce virus circule par manuportage et qui n'aurait jamais été finalement prouvé qu'il soit aérien. On n'y comprend pas trop grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut croire là-dessus? Et puis on parlera aussi du gel hydroalcoolique. Est-ce que c'est l'unique rempart selon vous?
De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une semaine, Olivier Véran, lors de son audition au Sénat, a reconnu que le masque n'était pas la solution la plus efficace contre la grippe. Donc après, je ne vais pas parler à sa place pour la Covid, mais voilà. Par exemple aussi, je vais revenir dire, sur ce qui a motivé les personnes à bloquer les bars. Pourquoi on va dire stigmatiser les bars et les restaurants? Il y a une étude américaine de Fisher, mais on l'a relue. Parce qu'on va dire, il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais qui ne lisent que les abstracts ou les conclusions. Donc effectivement, dans cette belle étude, ils disent les gens ont été plus contaminés dans les bars et restaurants. Mais derrière, ils disent aussi que les gens sont allés aussi dans des bars et restaurants qui ne respectaient pas les gestes barrières. Donc, moi, je vais encore le redire, ce qui est important, ce sont les gestes barrières, et que ce soit dans un restaurant, dans une salle de spectacle ou n'importe où, si vous ne respectez pas les gestes barrières, ce sera le même problème. Ce n'est pas le problème du restaurant où on enlève le masque pour manger. Cette étude américaine, c'est des gens qui allaient dans des bars, faire la fête, où les gens se prennent par les épaules, et c'est là où on est contaminé. Il ne faut pas stigmatiser, puisque là aussi, scientifiquement, il n'y a pas de preuves. Après, les gens vont dire « Ah bah oui, mais les jeunes qui font la fête, qui dansent, se contaminent. » Ce n'est pas la même chose que dans un restaurant. Tous les restaurants, ça finit pas à la queue leu-leu.
Donc, vous êtes ouvertement, d'ailleurs, ça va plutôt rassurer les restaurateurs, pour une non-fermeture des restaurants.
Mais pour deux raisons que je vais dire encore à Marseille, c'est que derrière, les critères d'Olivier Véran ne sont plus respectés. D'autres régions sont même au-dessus, eux, ont les critères d'Olivier Véran. Et stigmatiser les bars et restaurants n'est pas justifié scientifiquement, puisque l'étude sur laquelle les gens se sont appuyés montre un biais énorme, puisque les gens sont allés dans des restaurants où il n'y avait pas de gestes barrières.
Et selon vous, le plus important,
les gens lisent l'article correctement.
C'est aussi le gel hydroalcoolique, hein, c'est ça que vous me disiez en
antenne. Le gel hydroalcoolique, beaucoup de virus, c'est connu depuis très longtemps que c'est manuporté et qu'il faut se laver les mains régulièrement.
Alors parlons également de cette information selon laquelle le virus aurait muté aujourd'hui, et si oui, comment? J'avoue qu'on n'y comprend pas grand-chose, bon, on n'est pas médecin, en tout cas me concernant. Est-ce que vous pensez qu'il circule plus vite, moins vite que lors du confinement? Est-on réellement capable de mesurer la vitesse de circulation d'un tel virus?
Alors, un virus qui mute, on va dire, c'est normal. Tous les virus mutent, à chaque fois qu'ils se dupliquent, il y a des mutations.
Donc là, il a muté, ça ne sert à rien de chercher même un vaccin.
Donc, attention, on va dire, il mute graduellement. Une mutation, ça veut dire qu'il y a eu des modifications génétiques. Est-ce qu'il reste encore proche ou pas? Ça, c'est encore une autre question, mais en tout cas, le virus mute. Donc, quand quelqu'un vous dit que le virus ne mute pas, c'est comme s'il vous disait que la Terre est plate. C'est un mensonge. Nous, on a séquencé plus de 1000 virus différents et on voit qu'à partir du mois de juillet, on voit des clones différents. Alors, est-ce que ces clones sont plus virulents ou moins virulents? Est-ce qu'ils vont échapper au système immunitaire à nouveau? Ça, c'est une autre question scientifique, c'est différent. Par contre, si on revient sur les chiffres, vous savez, la force de l'IHU, et c'est pour ça que nous sommes patients et on sait que le temps nous donnera raison, puisqu'on note tout et on publie. Donc derrière, ça sera. On a eu à peu près le même nombre de cas positifs lors de la première saison que la deuxième à partir du mois de juin. 6 000 dans un cas, presque 7 000 dans un cas, 6 000 pour l'autre. Dans la première saison, 23% des personnes finissaient à l'hôpital. À la deuxième saison, seulement 7%, 3 fois moins. Donc, il y a bien quelque chose qui a changé, ça, c'est des chiffres. Sur presque 6 000 personnes, on a, on va dire, 3 fois moins d'issues en hôpital. Donc, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le même climat? À l'IHU, on a toujours eu la même prise en charge. Donc, il n'y a pas eu de grande différence là-dessus. À Paris, c'est plus difficile d'avoir cette information puisqu'il y a eu des changements de prise en charge. Heureusement, maintenant, les gens sont très bien pris en charge. Mais il faut bien expliquer cette différence. Donc, nous, la seule chose qu'on dit, c'est que le virus n'a pas les mêmes issues thérapeutiques lors de la première saison. Et derrière, il y a des variations génétiques de ce virus. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Est-ce que derrière, il y a un lien de cause à effet parfait ? On n'en sait rien encore, mais en tout cas, on l'étudie et on peut le supposer.
Est-ce que, parce que finalement, on vous entend beaucoup, enfin, en tout cas, pour le peu que vous vous exprimez, vous, le professeur Raoult, à dénoncer et à, en effet, laisser entendre, en effet, que vous êtes victime peut-être d'un acharnement à Marseille, ou en tout cas, lorsque vous vous exprimez, notamment concernant l'hydroxychloroquine. Mais c'est vrai que, mettons-nous un instant, s'il vous plaît, professeur, à la place de ce gouvernement qui doit gérer dans l'urgence une crise. Vous seriez, finalement, vous, à la place du ministre de la Santé, Olivier Véran, quelle serait la mesure que vous préconiseriez en priorité, là, aujourd'hui, le 4 octobre. Est-ce que, si la situation continue d'empirer, parce que finalement, ça peut être aussi le cas, d'après les chiffres, notamment à Paris, est-ce qu'on pourrait envisager un reconfinement ? Est-ce que ce serait aberrant ? Qu'est-ce que vous proposeriez si vous faisiez partie, puisque vous n'en faites pas partie du Conseil scientifique, si vous étiez auprès d'Olivier Véran ?
C'est une question qui est éminemment complexe.
Ben c'est bien pour ça que je la pose.
Qui dépasse. Déjà, moi, on va dire, ne pas prendre les Français pour des enfants ou des idiots. Déjà, avoir un discours de vérité, de responsabilité. Ne pas mentir. Ça, moi, je pense que le plus gros problème, je vais paraphraser Didier Raoult, on voit bien les gens, ils entendent blanc, ils entendent noir. Ça leur crée des dissonances cognitives. Ça crée de l'angoisse, de la peur, et cette peur va se transformer en violence. Déjà, ça c'est la première chose, il faut apaiser les gens. L'épidémie, on va dire, bien sûr, il faut pas qu'elle se propage, on va dire, c'est le Covid, c'est pas Ebola, mortel comme Ebola, c'est pas non plus anodin, on va dire, c'est là aussi, vous voyez, c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a une mosaïque de gris entre les deux. Il faut pas non plus affoler les gens, c'est-à-dire que pour l'instant, le nombre de décès, et reste très limité. Moi, je prends juste les chiffres, on va dire, à peu près, chaque jour, en moyenne, il meurt 1500 personnes en France. Il faut prendre du recul. Après, c'est pas une fois qu'on a dit ça qu'on doit laisser les gens mourir. Après, on sait qu'on a des personnes qui sont fragiles. Donc, peut-être que les personnes les plus fragiles, et c'est ce qu'elles font, qu'elles se protègent. Encore plus, comme je l'ai dit, vous voyez, moi, mes parents, je leur dis, portez le masque pour éviter d'aller embrasser vos amis. Des mesures, mais peut-être arrêter la coercition. Je pense qu'il est là, le truc, il faut arrêter, sinon ça va vraiment être catastrophique économiquement, ça va être catastrophique socialement. Il faut arrêter de, je vais pas dire de mentir, mais de raconter des choses contradictoires à longueur de temps. Il faut se rassurer, finalement, la mortalité en France, cette année, est faible. Plus faible que les autres années. On devrait se réjouir, c'est plutôt une année favorable, on meurt moins. À l'hôpital de Marseille, comme je vous dis, où on est où ça focalisait, il y avait moins de décès à l'hôpital que les autres années. Donc peut-être qu'on regarde les choses positivement au lieu d'avoir peur toujours avec des prévisions alarmistes et catastrophiques. Donc comment arrêter une épidémie ? Honnêtement, personne n'a la solution. On sait qu'il y a des pays qui ont réussi à ce que l'épidémie ne vienne pas. Il y a des pays aussi qui ont réussi, qui ont l'épidémie comme l'Allemagne, où ils ont eu l'épidémie, ils ont eu très peu finalement de létalité, donc très peu de morts. Donc il y a des solutions. Après, la solution, je ne la connais pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en tous les cas, le plus important, c'est quand quelqu'un est malade, ou qu'il y a des symptômes, c'est de le prendre en charge. Et ça, je pense que c'est une chose qui est faite maintenant, et ça, c'est une bonne chose. Pour moi, le pire de la crise, ça a été de laisser les gens chez eux, avec du Doliprane, ça c'est moyenâgeux.
Et le choix d'une immunité collective, ça c'est définitivement abandonné hein, comme recommandation selon vous ?
Mais les finalités finalement du virus, c'est soit le virus va se désagréger et devenir très peu virulent et disparaître entre guillemets de lui-même, ou soit les gens seront immunisés, sinon ça reviendra sans fin. Ce n'est pas des choses qui existent. Donc après, en combien de temps ? Est-ce que les gens... Il y a déjà, a priori, pas mal déjà de personnes qui sont immunisées. Mais là aussi, moi et les personnes, on va dire, en bonne santé...
On peut le ravoir plusieurs fois, ça, on n'en est pas certain. Hein. Est-ce qu'on peut le rattraper une nouvelle fois ?
Alors, vous savez, ça, c'est toujours... Il y a toujours des cas où c'est possible. Je ne sais pas s'ils sont documentés. En tous les cas, en général, c'est rare quand on attrape deux fois le même virus. Si après, ils mutent ou ils se recombinent, bien sûr qu'on peut être à nouveau immunisé. Mais c'est que ça ne sera pas la même chose. Là, pour l'instant, les mutations qu'on a vues ne sont pas suffisantes pour dire... que ça va être un nouveau virus qui va infecter. Nous, on voit juste qu'il est un peu différent, plus sur son fonctionnement.
Et sur le vaccin, vous êtes optimiste, professeur ?
Mais là aussi, on va dire, vous savez, ça, c'est des questions binaires. Nous, comme je vous ai dit, je ne suis ni pour ni contre le masque, ça dépend des circonstances. Et le vaccin, eh ben, il faudra voir quand il sera prêt, quand on verra ses risques, on va dire quels sont ses réels risques, et est-ce que ça sera utile de donner à la population en temps et en heure. Moi, 6 mois à l'avant, je ne peux pas vous dire si ça va être utile ou pas. S'il y a des gens qui veulent développer, tant mieux, mais on verra ça en temps et en heure. Quand on voyage dans certains pays, on se fait vacciner de la fièvre jaune. Si vous restez à Marseille, vous ne faites pas vacciner de la fièvre jaune. Vous voyez, c'est très simple au final.
Professeur Chabrière, on arrive au terme de cette émission. Dernière question, vous êtes optimiste quant à la résolution de cette crise et la fin de la pandémie? Au contraire, vous êtes plutôt remonté, comme Fabrice Divisio, d'ailleurs, vous avez retweeté, hein, qu'on recevait ici, un avocat qui a engagé une action en justice avec un collectif de 600 médecins libéraux. Vous appelez à des actions en justice pour condamner ceux qui auraient failli.
Et on va dire, après ça, il y a des actions en justice, ça regarde les gens qui sont, qui font l'objet de ces mises en accusation. Moi, je voudrais juste reprendre du recul. D'ailleurs, là aussi, au Sénat, Olivier Véran a dit que finalement, que les chiffres du Covid étaient gonflés. Donc, au final, c'est peut-être 20 000 morts qu'il y a eu du Covid. Donc, il faut arrêter de tout bloquer pour quelque chose qui peut certainement se maîtriser avec du calme et de la sérénité.
Eh bien, ce sera le message de la fin. En tout cas, merci beaucoup, professeur Éric Chabrière, d'avoir accepté. En effet, j'avais beaucoup insisté pour vous recevoir, d'être notre invité dans Les Incorrectibles. Merci à Maxime Sénat, la réalisation, à Lara Lopez au digital, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist des Incorrectibles. Et on s'attend évidemment à une forte audience, même en replay avec vous comme invité. On écoutera bien sûr sur Sud Radio les dernières annonces qui vont donc être annoncées peut-être dans les heures, voire dans les 24 prochaines heures, donc par Olivier Véran ou par le professeur, par Monsieur Salomon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h et j'aimerais enfin profiter de cette fin d'émission pour remercier très chaleureusement Didier Maisto, grâce à qui cette émission a pu voir le jour. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses nouveaux projets. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous à l'écoute de Sud Radio.